Bonjour. Alors, nous allons continuer avec notre ami Job. Nous avons vu la fois passée que le débat entre Job et ses amis, débat théologique, débat profond, haut en couleur. Il s'agissait bien sûr de voir quelle idée nous avons de Dieu et ce qu'il a peut-être à faire avec la souffrance de l'homme. Mais nous avons vu que sur ce plan-là, sur le plan de la théologie abstraite, les choses s'enlisaient. Il n'y avait pas de suite. On ne savait plus très bien quels étaient les repères et ce qu'il fallait penser. Si tant est qu'il faut penser quelque chose. Et comme je vous l'ai dit à la fin du cours précédent, il fallait quelque chose de neuf pour relancer l'intrigue. Quelle est la voix qui peut maintenant intervenir dans un débat théologique? Quand Dieu se tait, quand Dieu laisse l'homme à sa réflexion, c'est sa manière d'être présent. Et voilà que le chapitre 28e débute d'une façon tout à fait insolite dans le livre de Job, parce qu'on ne sait pas qui parle. On ne sait pas qui parle, et de but en blanc, il existe pour l'argent des mines, et pour l'or aussi des lieux où on l'épure. Le fer est tiré du sol, et la pierre fondue livre du cuivre. Bon, il s'agit de métaux. Et les métaux sont précieux à ce moment-là parce qu'on peut les traiter, on peut les tirer de la pierre, on peut en faire quelque chose, mais quelque chose d'utile, évidemment. Les métaux servent à cela. Mais qui parle? Qui parle? Puis on vous décrit comment on va chercher les choses précieuses. L'œil de l'homme perçoit qu'il y a des réalités précieuses dans la terre, des pierres précieuses, des mines. Et il décrit tout cela. Et il n'est pas le seul à décrire cela. Il y a un certain nombre de textes dans la Bible où on parle justement de la sagesse qui est dans l'homme. Car l'homme discerne quelque chose. Il évalue. Donc, il a un système de valeurs. Qu'est-ce qui lui permet cela? Qu'est-ce qui permet à l'enfant d'arriver tout d'un coup à la conscience de soi et à la découverte? Il y a un désir dans l'enfant dès le sein maternel. Il faut qu'il mange, il faut qu'il boive, il faut qu'il se nourrisse. Et petit à petit, on voit que la conscience s'éveille, mais tout doucement, dans la vie d'un enfant. Quelle est cette réalité précieuse qui germe, que nous pensons toute naturelle, mais qui germe à partir d'un corps, d'un petit corps humain? Et il va être question de la sagesse, car il y a un refrain qui vient dans ce chapitre 28e, qui a été bien sûr ajouté par après, mais pourquoi a-t-il été ajouté là, précisément? C'est toujours la question. Dans un texte biblique, pourquoi les choses se déroulent-elles de cette manière-là? Elles pourraient se dérouler autrement. Et donc, au moment où on ne sait plus quoi, où on est dans l'impasse, voilà qu'une sorte de voix off, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas qui parle, va nous parler en troisième personne de la réalité de la sagesse. la sagesse qui est dans l'homme. Mais d'où vient-elle, cette sagesse? Où la trouver? Est-ce que ce sont des cours universitaires qui peuvent la donner? Est-ce que c'est la maman qui peut apprendre la sagesse à son enfant? La sagesse, en tout cas, dans la Bible, est plutôt l'apanage des gens qui ont vécu un certain temps, l'apanage des vieillards. Il y a l'innocence enfantine et la sagesse des vieillards. Ce sont les deux réalités, le début et la fin de l'homme, dans sa structure et dans son développement. Donc on vous parle de cette sagesse. Et de fait, pour arriver au texte que vous avez dans vos Bibles, il faut déjà faire un bon effort, si vous comparez avec le texte que j'ai traduit littéralement de l'hébreu, dans le livre sur Dieu, Job et la sagesse, vous verrez que le texte n'est pas tout à fait clair. On voit de quoi il parle, c'est essentiel, mais les détails du texte, pour les découvrir, pour les happer en quelque sorte, il faut déjà approfondir quelque peu les mots. Donc, il existe des choses précieuses, elles sont cachées dans la terre, les gens de la lampe, c'est-à-dire les mineurs, sont suspendus parce qu'il faut creuser les rochers pour arriver jusqu'aux pépites d'or ou d'argent ou de pierres précieuses. La terre d'où sort le pain est ravagée en dessous par le feu. Là, les pierres sont des gisements de saphir qui contiennent des parcelles d'or. Voilà. Mais il faut trouver tout cela. Qu'est-ce qui permet à l'homme de trouver tout cela? Et l'homme est ici supérieur à l'animal, parce que même les aigles ou les oiseaux de proie qui ont un regard acéré ne parviennent pas à trouver ces richesses. Donc il y a un discernement opéré. L'homme s'attaque au silex. Il bouleverse les montagnes dans leurs racines. Dans les roches, il perce des galeries. L'œil ouvert sur tout objet précieux. Il explore les sources des fleuves, amène au jour ce qui était resté caché. Donc la sagesse est un trésor caché, en quelque sorte. Mais la sagesse, d'où provient-elle? Où se trouve-t-elle l'intelligence? Qu'est-ce qui permet de découvrir tout cela? L'homme, oui, on a d'abord parlé des animaux, puis on parle maintenant de l'homme et des efforts de l'homme pour découvrir ce qui est précieux. L'homme en ignore le chemin. On ne la découvre pas sur la terre des vivants. On n'a jamais rencontré Madame Sagesse comme cela. Pourtant, elle existe, Dame Sagesse. Et justement, si nous voyons des passages parallèles dans les Proverbes, chapitre 8, 22 à 31, dans le livre de Baruch, au chapitre 3, le livre de Ben Sirach, tout le chapitre 24e, et le livre de la Sagesse, les chapitres 6 à 9. Donc, il y a une thématique déjà de la sagesse. Et la sagesse, justement, se propose. Elle se propose au carrefour des routes. Elle est là, elle est présente partout. Venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. La sagesse est toujours pratique dans la Bible. Il faut beaucoup de sagesse pour faire une bonne soupe. Beaucoup de sagesse. Parce qu'il faut y mettre, bien sûr, tout son cœur. La sagesse n'est pas seulement intellectuelle. L'abîme déclare, « Oh, je ne la connais pas !» Et la mer, elle n'est point chez nous. Il ne faut pas aller très loin pour découvrir la sagesse. On ne peut l'acquérir avec de l'or massif, la payer au poids de l'argent. Et ça ne s'achète nulle part, la sagesse. Ça vient comme cela, dans l'homme. L'évaluer avec de l'or de l'ophir, l'agate précieuse ou le saphir. C'est pas de l'ordre des pierres précieuses. Et pourtant, elle a beaucoup de valeur. On ne lui compare pas l'or ni le verre, on ne les change point contre un vase d'or fin. Coraux et cristal ne méritent pas mention. mieux vaudrait pêcher la sagesse que les perles. La sagesse est d'un autre ordre. Auprès d'elle, la topaze de Kush, renommée, le Kush c'est l'Éthiopie, est sans valeur et l'or pur perd son poids d'échange. Donc c'est au-dessus de tous les prix, tout ce qui a du prix, de la valeur dans ce monde. Mais la sagesse, d'où provient-elle? Où se trouve-t-elle l'intelligence? D'où vient cette capacité qu'a l'homme de découvrir ce qui est bon, ce qui est fin, ce qui a de la valeur? Elle se dérobe aux yeux de tout vivant. Elle se cache aux oiseaux du ciel. La perdition et la mort déclarent, nos oreilles ont eu bruit de sa renommée. On en sait quelque chose et on meurt avec une sorte de trace de cette sagesse. Et puis, Dieu seul en a discerné le chemin et connu lui où elle se trouve. Nous passons à un autre ordre de valeur parce qu'il y a une présence divine, Dieu seul. Dieu seul est la source de la sagesse. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout ce qui est sous les cieux. Lorsqu'il voulut donner du poids au vent, jauger les eaux avec une mesure, c'est-à-dire lors de la création, quand il imposa des lois à la pluie, une route au roulement du tonnerre, alors il la vit, il l'évalua, il la scruta jusqu'au fond. Puis, il dit à l'homme, la crainte du Seigneur, voilà la sagesse, fuir le mal, voilà l'intelligence. Qu'est-ce que tout ça vient faire? Pourquoi la sagesse surgit-elle comme cela? Ou la question de la sagesse? C'est une question qui est posée. Et la sagesse, c'est vraiment une question. D'où vient cette sagesse? D'où vient cette prise de conscience que l'homme peut faire? L'homme, pas les animaux. D'où vient-elle? Dieu. La sagesse est comme une présence de Dieu, mais distincte de Dieu, puisqu'il la vit, lui, le Seigneur, et l'évalua. On dirait que Dieu voit la sagesse quand il la donne à l'homme. L'homme a quelque chose de divin en lui pour pouvoir percevoir la réalité profonde des choses. La sagesse, et dans les textes que je vous ai cités, que vous aurez la fois prochaine, ils sont toujours présents et vous les trouvez généralement dans les Bibles, dans les marges, les passages parallèles. La sagesse est comme une présence de Dieu. C'est une présence qui donne la vie. Et pas pour rien qu'elle est campée, nous en avons parlé au premier cours, qu'elle est campée comme une femme qui porte la vie. Et elle s'insinue, un peu comme dans une union conjugale, la femme qui reçoit l'homme, qui reçoit la vie de l'homme, transmet aussi à l'homme quelque chose de sa présence, de son émoi intérieur, de sa vie profonde. Eh bien, la sagesse, dame sagesse, est un peu comme cela. La sagesse reçoit du Seigneur ce qu'elle est. Et elle la distribue aux hommes. Elle est comme médiatrice. C'est le côté féminin de Dieu. La sagesse va prendre, elle est féminine en hébreu, la chokma, et elle va prendre petit à petit le rôle de ce que dans le Nouveau Testament et un peu dans l'Ancien déjà, on appelle l'Esprit Saint. Et les présences, je pourrais dire féminines, de Dieu à l'homme. Mais c'est lui qui en est la source. Dieu est la source de cette sagesse. Et si on la compare à une femme, c'est qu'elle donne la vie et elle évalue les choses. Elle apprécie. Cette sagesse vient précisément au secours de l'homme, surtout quand il est dépouillé, quand il ne sait plus quoi. Et voilà pourquoi elle intervient ici. La rencontre avec Dame Sagesse. Cette sagesse qui est en lui, Job, au-delà de son raisonnement, puisque le raisonnement a tourné court, au-delà de son raisonnement, il y a comme une présence intime. Et cette présence a quelque chose à voir avec Dieu, puisque Dieu en est la source. Donc voilà un personnage qui est à la fois personnage et présence à l'homme, présence dans l'homme, un personnage qui surgit et qui remplace en quelque sorte les trois amis théologiens qui venaient trouver Job pour le consoler. Voilà en gros le sens de ce chapitre 28e. Mais il faut pour bien le comprendre déjà avoir en tête les passages du livre des Proverbes, du livre de Baruch, de Ben Sirac et de la Sagesse, qui est postérieur, le livre de la Sagesse est très postérieur au livre de Job. Et quel va être l'effet de cette sagesse dans la dynamique du livre de Job? Eh bien, nous allons continuer le texte et voir justement ce qu'elle apporte, cette présence de la sagesse, c'est-à-dire lorsque nous nous retrouvons au creux de nous-mêmes, que nous sommes dépouillés, que nous n'avons plus rien, dans ce vide, il y a comme une présence à trouver, qui petit à petit s'insinue dans l'homme. C'est comme si c'était la découverte de nos racines divines, qui nous sont venues avec la gestation, notre gestation dans le ventre de notre mère. Et alors, l'effet sur Job va être très curieux aussi. Ce chapitre 28e s'est inséré à un moment où Job allait de nouveau parler comme il l'avait fait tout au début pour lancer l'intrigue. Au chapitre 3e, eh bien, il s'était plaint, il s'était lamenté, il avait regretté le jour de sa naissance qui pour lui était un jour de mort. Et ces trois chapitres, 29, 30 et 31, qui viennent maintenant, ces trois chapitres reprennent en quelque sorte en écho ce que Job avait dit au chapitre 3e. C'est-à-dire retrouver en lui-même, ça c'est peut-être un chemin de sagesse, retrouver en lui-même cette présence divine. Nous dirions, refaire un curriculum vitae un peu approfondi. Pas seulement ce que j'ai fait, mais comment j'ai été jusqu'à ce jour. Refaire, en quelque sorte, une histoire de sa conscience. Retrouver ses racines. Voilà ce que la sagesse peut faire. Parce que la sagesse accouche d'une présence divine. Et ces trois chapitres, qui sont très importants dans le livre, c'est en fait ce que nous appelons un examen de conscience. Qu'est-ce que j'ai été jusqu'ici? Qu'est-ce que je suis? Un bilan. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce qu'il me reste? Et vers quoi vais-je? Ce sont les chapitres 29, 30 et 31. Nous souffrons et nous avons à refaire à ce moment-là, grâce à la sagesse que nous pouvons rencontrer au creux de notre existence, nous avons un chemin à refaire, une mémoire. Parce que cette mémoire va porter en elle l'avenir. Alors, c'est ce qu'on appelle le plaidoyer de Job. Ce plaidoyer, donc, se divise en trois parties. D'abord, qu'est-ce que Job a vécu? Qu'est-ce que nous avons vécu par le passé? Quand ça allait bien? Donc, commençons par découvrir ce qui allait bien. Ce mouvement n'est pas immédiat chez nous. Nous commençons toujours par voir ce qui va mal. Mais commençons par voir la réalité avec Job. Qu'est-ce qui allait bien autrefois? Pour découvrir justement par où on est passé. Mais plus profondément, avec une nouvelle lumière, précisément cette lumière d'une présence. Job continua de s'exprimer en sentence. Et il dit, « Qui me fera revivre les mois d'antan, ces jours où Dieu veillait sur moi ?» Ces jours d'antan, ces jours où Dieu veillait sur moi. Tout de suite, Job, et c'est là son innocence, tout de suite, Job revient à cette présence divine, où sa lampe brillait sur ma tête. C'est comme une lumière, donc. Et sa lumière me guidait dans les ténèbres. Puissais-je revoir les jours de mon automne, quand d'une haie Dieu protégeait ma tente. C'était Dieu qui me protégeait. Voilà. Que Shaddai demeurait avec moi et que mes garçons m'entouraient. Ah, Dieu n'était pas tout seul. Dieu était présent dans la vie que j'avais donnée. Donc il y a ce chemin de vie qui est passé à travers moi et qui m'avait donné des enfants, des fils, mes garçons m'entouraient. Quand mes pieds baignaient dans le laitage et du rocher coulaient des ruisseaux d'huile, tout allait bien. Si je sortais vers la porte de la ville, hein, les anciens vont faire la palabre, c'est-à-dire vont rendre la justice aux portes de la ville, si j'installais mon siège sur la place, à ma vue, les jeunes gens se retiraient et les vieillards restaient debout. J'avais une autorité parmi le peuple. Les notables arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. Ils n'avaient plus rien à dire. La voix des chefs s'étouffait et leur langue se collait au palais. J'étais vraiment une autorité, hein. Ils m'écoutaient dans l'attente silencieux pour entendre mon avis. À chaque pause, nul ne répliquait. Une fois que j'avais parlé, c'était fini. La cause était entendue. Et sur eux, goutte à goutte, tombaient mes paroles. Il peut être un peu plein de lui-même, mais enfin... C'était comme ça que ça se passait. Il était une autorité reconnue. Il m'attendait comme la pluie. Leur bouche s'ouvrait comme pour l'ondée tardive. Si je leur souriais, ils n'osaient y croire. Ils recueillaient sur mon visage tout signe de faveur. Je leur traçais d'autorité la route à suivre, tel un roi installé parmi ses troupes. Je les menais partout à mon gré. quand ça allait bien, c'était moi qui étais au centre. Mon éloge résonnait dans toute oreille, et je trouvais faveur à tous les yeux, car je délivrais le pauvre en détresse et l'orphelin privé d'appui. Important, ceci. C'était pas un homme qui attirait à lui-même, mais il faisait attention aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin. Hein, ce sont les signes d'une présence aux autres. Ce que j'avais reçu de Dieu, qui était reconnu par les hommes, c'était pour les pauvres aussi. Donc il revient un peu sur le troisième cycle du débat. La bénédiction du mourant se posait sur moi et je rendais la joie au cœur de la veuve. Mon attention et tout ce que j'avais, cette autorité, était faite pour l'autre et pour le pauvre, la veuve, l'orphelin. J'avais revêtu la justice comme un vêtement. J'avais l'équité pour manteau et turban. Bon, j'étais vraiment un homme de droit qui rendait la justice. J'étais les yeux de l'aveugle et les pieds du boiteux. C'était moi le père des pauvres, pater pauperum, hein, ce terme qui a été utilisé pour l'Esprit Saint. Le père des pauvres. La cause d'un inconnu, je l'examinais. Je brisais les crocs de l'homme inique. D'entre ses dents, j'arrachais sa proie. Le défenseur du petit, du pauvre, du malheureux. Et je disais, je mourrais dans ma fierté. Après des jours nombreux comme le palmier, mes racines ont accès à l'eau, la rosée se dépose la nuit sur mon feuillage, mon prestige gardera sa fraîcheur, et dans ma main, mon arc prendra force. L'arc, ce sont les paroles, hein, ce qu'on lance. Donc, un tableau assez ambitieux de l'homme, mais il a vécu. Il est décrit justement comme un grand cheikh, hein, un des patriarches, dont on attend tout. Donc voilà la vision d'autrefois. Mais face à cette vision d'autrefois, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Et alors le chapitre 30, en contrepoint précisément, comme le font souvent les prophètes, hein, il souffle le chaud et le froid pour vous montrer que la vie est faite de va et vient. Qu'est-ce qui reste de tout cela? Eh bien, maintenant, il va montrer comment il a tout perdu, jusqu'à cette réputation et cette autorité qu'il avait, mais qui avait été pour lui comme un don, c'est un don de Dieu. Il y avait une certaine fierté, mais on ne peut s'enorgueillir de ce que l'on a reçu, puisque précisément on l'a reçu. Et alors, vous allez voir ce mot revenir, ce mot que les prophètes aiment bien aussi, et maintenant, v'atta, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui reste? Il ne reste pas grand-chose, mais avec quoi commence-t-on? À partir de quoi construit-on? Et maintenant, je suis la risée des gens qui sont plus jeunes que moi et dont les pères étaient trop vils à mes yeux pour les mêler aux chiens de mon troupeau. C'est la manière de s'exprimer à l'époque. Aussi bien, la force de leurs mains m'eût été inutile. Ils avaient perdu leur vigueur, épuisés par la disette et la famine. Ils rongeaient les racines de la steppe, les broussailles des ruines désolées. Ils cueillaient la roche, une herbe sans saveur, et des feuilles des buissons, faisaient leur pain des racines du genêt, bannis de la société des hommes, et qu'il ait eu comme des voleurs. Ils logeaient au flanc des ravins, dans les grottes et dans les crevasses du rocher. Tous ces gens qui errent partout, hein, comme des chiens errants précisément. Maintenant je suis la risée de tout le monde. Je n'ai plus aucune consistance. Je ne suis plus reconnu en rien. Des buissons, on les entendait braire, ils s'entassaient sous les chardons, leurs fils d'eux-mêmes sont une vilengeance, des êtres sans nom que le pays rejette. Une manière de dire, j'étais tout à fait déconsidéré, à moins que rien. Et maintenant, il revient. Et maintenant, voilà qu'ils me chansonnent, qu'ils font de moi leur fable. On raconte tout ce qu'on veut sur moi maintenant. J'ai perdu ce qui me donnait l'autorité vis-à-vis des hommes, c'est-à-dire la richesse, la considération, l'âge, hein, la prestance, etc. Et maintenant, voilà qu'ils me chansonnent, qu'ils font de moi leur fable. Saisis d'horreur, ils se tiennent à distance devant moi, ils crachent sans retenue. Je ne suis plus rien du tout. Et parce qu'il a détendu mon arc et m'a terrassé, ils rejettent le mort de leur bouche. Il, le il c'est Dieu, parce que Dieu m'a terrassé maintenant, il me compte pour rien. Leur engeance surgit à ma droite, me lance des pierres comme projectiles, fraye vers moi ses chemins sinistres. Voilà comment l'homme déconsidère son frère quand il n'est plus rien du tout. Ils me ferment toute issue, ils attaquent et nul ne les arrête. Il avait montré comment il était considéré, comment il avait besoin des hommes, de ces garçons d'abord, et puis de tous les hommes qui lui donnaient une place dans la société. Il n'est maintenant plus rien du tout, dépouillé de tout. Ils me ferment toute issue, ils attaquent et nul ne les arrête. Ils pénètrent comme par une large brèche, et je suis roulé sous les décombres. Cette maison est détruite, mais cette maison, c'est l'homme lui-même. Déchéance de l'homme. Les terreurs se tournent contre moi, mon assurance est chassée comme par le vent, il passe comme un nuage mon espoir de salut. Il n'y a plus rien. C'est l'abandon total. Abandonné des hommes, silence de Dieu. Et maintenant, il revient comme un refrain. Et maintenant. Il fait le bilan. Et maintenant, la vie en moi s'écoule. Il a parlé de Dieu, il a parlé des hommes, il parle de lui maintenant. Et maintenant la vie en moi s'écoule, les jours de peine m'ont saisi, la nuit le mal perce mes os, les plaies qui me rongent ne dorment pas. Il revient, voyez, à ce qu'il avait dit tout au début. Avec une grande force, il, c'est toujours Dieu, il m'a pris par le vêtement, serré au col de ma tunique, il m'a jeté dans la boue. Je suis comme poussière et cendre. Attention à ces deux mots. Je suis comme poussière et cendre. Plus aucune consistance. Je crie vers toi. Et voilà que de nouveau, le toi revient. Quand il parle de Dieu, il parle à Dieu. Je crie vers toi et tu ne réponds pas. C'est le silence de Dieu qui l'obsède. Je crie vers toi et tu ne me réponds pas. Je me présente et tu restes distrait. Tu es devenu cruel à mon égard, ta main vigoureuse sur moi s'acharne. Tu m'emportes à cheval sur le vent, tu me ballottes par la tempête. Oui, je sais que tu me fais retourner vers la mort, vers le rendez-vous de tout vivant. Et maintenant, il regarde venir la mort, la déchéance, la destruction de son être. Quand nous sommes nés, nous n'étions pas conscients de notre fragilité. Et petit à petit, nous avons pris consistance, tout en découvrant bien sûr nos limites. Mais petit à petit, nous avons voulu dominer toutes ces limites, nous dominer nous-mêmes, nous contrôler, contrôler le monde autour de nous. Et maintenant, il ne reste plus rien. C'est un peu la déchéance de la vieillesse, dont vous avez aussi dans le Coëlette un beau passage. Je crie vers toi et tu ne réponds pas. Je me présente et tu restes distrait. Tu es devenu cruel à mon égard, ta main vigoureuse sur moi s'acharne. Tu m'emportes à cheval sur le vent, tu me ballottes par la tempête. Oui, je sais que tu me fais retourner vers la mort, vers le rendez-vous de tout vivant. Et maintenant, je vais vers la mort. Pourtant, est-ce que je mérite cette déchéance? Oh, est-ce que c'est une question de mérite? Ou bien est-ce que c'est le chemin, comme il dit, le chemin de tout vivant, le rendez-vous de tout vivant? Pourtant, et je portais la main sur le pauvre. Voilà justement que la pensée de la mort prochaine lui fait penser aux autres. Il vient d'y penser. Il vient de dire, voilà, je faisais du bien à tous ceux qui en avaient besoin. Je me prodiguais pour le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'immigré qui habite chez toi. Pourtant, et je portais la main sur le pauvre. Est-ce que c'est une punition, un châtiment de ce que j'aurais dû faire? Mais non. Il y a quelque chose que Job continue de percevoir, c'est qu'il n'y a pas une question de mérite. On ne mérite pas le bien ou le mal. Cela fait partie de la réalité humaine. Il faut en prendre conscience. Ai-je porté la main sur le pauvre quand dans sa détresse il réclamait justice? N'ai-je pas pleuré sur tous ceux dont la vie est dure? Éprouver de la pitié pour l'indigent. J'espérais le bonheur et le malheur est venu. J'attendais la lumière, voici l'obscurité. Alors, quel est le sens de cette attente, de cette espérance qui est dans l'homme, de ce désir de bonheur? Ne serait-il rien? Serait-il pure illusion? J'espérais le bonheur, le malheur est venu. J'attendais la lumière, voici l'obscurité. Mes entrailles bouillonnent sans relâche, chaque jour m'apporte la souffrance. Si je m'avance l'air sombre, nul ne me console. Si je me dresse dans l'assemblée, c'est pour crier. Je suis devenu le frère des chacals, des errants, et le compagnon des autruches. Ma peau sur moi s'est noircie, mes os sont brûlés par la fièvre, ma harpe est accordée au chant de deuil, ma flûte à la voix des pleureurs. Je ne suis plus rien que tristesse et deuil, je m'en vais vers la mort. Donc visage du bonheur d'antan et du dépouillement actuel. Alors, que faire avec tout ça? Et le chapitre 31e va s'inspirer d'une littérature qui existait surtout en Égypte. C'est la littérature de l'examen de conscience, les livres des morts, où l'homme, quand il va passer dans la mort, et justement on mettait ses prières, hein, on les ensevelissait dans les pyramides, dans les tombes égyptiennes, comme une prière. Un examen de conscience, mais d'une manière un peu différente. Non pas un examen de conscience qui recherche sa faute pour l'avouer, mais qui en quelque sorte se déculpabilise. Est-ce que j'ai fait vraiment le mal, autrement dit? Oui, bien sûr, je n'ai pas été parfait. Il y a des manquements dans mon existence, il y a des transgressions, c'est sûr. Mais... Et Job va précisément appuyer cela. Et vous voyez que plus on avance dans le livre de Job, plus l'attention aux autres, aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, prend de l'importance. Qu'est-ce que j'ai fait pour le petit, celui qui manque, celui qui est souffrant, comme je le suis maintenant? Si j'ai fait l'expérience de la souffrance, ce n'est pas pour oublier l'autre. Ce n'est pas pour tout centrer sur moi-même. Ce n'est pas pour ne faire que me plaindre. Alors, examen de conscience un peu étrange d'abord. Si j'ai fait ceci, si j'ai fait cela, ben, c'est normal. Alors, que je subisse un châtiment proportionné, d'accord. Ça va. Mais proportionné. Si j'ai fait le mal avec mon bras, avec ma main, ben, comme le coupe. Ça va encore, ça. Hein, c'est dans l'ordre. J'avais fait un pacte avec mes yeux au point de ne fixer aucune vierge. Mon désir sexuel, bon, mais je l'avais dominé. J'étais chaste. Or, quel partage Dieu fait-il de là-haut? Quelle loi Shaddai assigne-t-il de son ciel? Est-ce que les efforts que j'ai faits ne comptent pas pour Dieu? Bon. N'est-ce pas le malheur qu'il réserve à l'injuste? Il y a toujours cette idée de rétribution qui est présente. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? N'est-ce pas le malheur qu'il réserve à l'injuste, l'adversité aux hommes iniques? Oui, si tu fais le mal. Ne voit-il pas ma conduite? Ne compte-t-il point tous mes pas? Il me connaît mieux que moi-même. Ai-je fait route avec le mensonge, pressé le pas vers la fausseté? Ben, qu'il me pèse sur une balance exacte, lui, Dieu, reconnaîtra mon innocence. L'innocence de Job, c'est qu'il n'a jamais lâché la main de Dieu. Il vient encore de lui parler. Si mes pas, voyez, si j'ai fait. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de ma culpabilité. Je ne parviens pas à la mesurer. C'est d'ailleurs pas mon affaire. Si mes pas ont dévié du droit chemin et mon cœur fut entraîné par mes yeux, la concupiscence, et si une souillure adhère à mes mains, qu'un autre mange ce que j'ai semé. Voilà. Ça, c'est... une rétribution exacte, en tout cas proportionnelle, et que soient arrachés mes jeunes pousses. Mes jeunes pousses, ce sont souvent les enfants. Si, voyez toujours, si j'ai fait, si mon cœur fut séduit par une femme, si j'ai épié à la porte de mon prochain, que ma femme tourne la meule pour moi, pour autrui, et que d'autres aient commerce avec elle. Passerait encore dans l'ombre. Si. j'aurais commis là une impudicité, un crime passible de justice, allumé à un feu qui dévore jusqu'à la perdition. Mais est-ce que j'ai été jusque-là? Vous voyez, c'est toujours une sorte d'évaluation dans sa conscience. Si j'ai méconnu les droits de mon serviteur, de ma servante, dans leur litige avec moi, que ferai-je quand Dieu surgira? Lorsqu'il fera l'enquête, que répondrai-je? Ne les a-t-il pas créés comme moi, dans le ventre? Un même Dieu nous forma dans le sein. Est-ce que je n'ai pas été respectueux pour le pauvre, pour mon serviteur? Ça peut arriver, si j'ai fait cela. Mais c'est une manière de dire, mais je n'ai pas été jusque-là quand même, hein? Si ma terre crie vengeance contre moi, maintenant, est-ce que j'ai bien fait produire ma terre, mais est-ce que j'ai fait du bien avec ce qui grandissait dans mes champs? Si ma terre crie vengeance contre moi, et que ses sillons pleurent avec elle, si j'ai mangé de ses produits sans l'avoir payé, fait soupirer ses ouvriers parce que je ne les payais pas, qu'au lieu du froment, il pousse des ronces à la place de l'orge, l'herbe fétide. Ça irait encore, si j'ai fait tout ça. Je pourrais en être privé. Maintenant, au lieu du si, il va faire autrement, il va poser la question. Et justement, cette manière de poser la question montre que nous ne sommes jamais bien juges dans nos affaires, que nous ne pouvons pas peser vraiment notre culpabilité. Nous n'en sommes pas maîtres. Nous ne contrôlons pas entièrement notre agir. Mais je dis, c'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. Et alors, s'il faut une sanction, qu'elle soit proportionnée. Alors, la question va être non plus si, mais ai-je? Est-ce que j'aurais peut-être? Ai-je été insensible aux besoins des faibles? Toujours, l'attention au prochain. Faible. Laisser languir les yeux de la veuve. Ai-je mangé seul mon pain, sans le partager avec l'orphelin? Toujours, pauvre, veuve, orphelin, immigré, qui habite chez toi. Ce sont ces catégories de l'attention aux autres. Alors que Dieu, dès mon enfance, m'a élevé comme un père, guidé depuis le sein maternel. Est-ce que j'aurais fait cela? Ai-je vu un miséreux sans vêtements, un pauvre sans couverture, sans que leur rein m'ait béni, que la toison de mes agneaux les ait réchauffés? J'ai fait du bien à tous ceux qui en avaient besoin. Un peu paternaliste sur les bords, bien sûr, mais enfin, j'ai fait attention aux autres. Ai-je agité la main contre un innocent, me sachant soutenu à la porte? J'ai fait quelque chose à quelqu'un, sans lui donner son droit, alors que, me sachant soutenu à la porte, parce que bon, j'étais un bon juge, je siégeais parmi les anciens du peuple. Qu'alors mon épaule se détache de ma nuque et que mon bras se rompe au coude. Car la terreur de Dieu fondrait sur moi, je ne tiendrai pas devant sa majesté. Est-ce que j'ai été jusqu'à faire le mal? Et il n'en est plus sûr. Et il ne sait pas où ça s'arrête. Ai-je placé dans l'or ma confiance? Ça, c'est l'idolâtrie qui vient maintenant. Et dit à l'orphin, c'est toi ma sûreté. Réflexe sécuritaire. Me suis-je réjoui de mes biens nombreux, des richesses acquises par mes mains? À la vue du soleil dans son éclat, de la lune radieuse dans sa course, mon cœur en secret. Ne s'est-il pas laissé séduire, hein, c'est l'idolâtrie avec ses séductions. Ce serait encore une faute criminelle car j'aurais renié le Dieu suprême. Est-ce que j'ai été jusqu'à renier mon Dieu? Mais non! Et je pris plaisir à l'infortune de mon ennemi. Déjà délicat comme conscience, hein, c'est pas seulement le pauvre, la veuve, l'orphelin, c'est aussi l'ennemi. Est-ce que je l'ai respecté aussi? Et je pris plaisir à l'infortune de mon ennemi, exulté quand le malheur l'atteignait. Moi qui ne permettais pas à ma langue de pécher, de le vouer à la mort dans une malédiction. Et ne disait-il pas, les gens de ma tante, qui donc n'a-t-il pas rassasié de viande? On a reconnu que je donnais ce que je pouvais, que je partageais tout. Jamais étranger ne coucha dehors, aux voyageurs ma porte restait ouverte, et je dissimulais aux hommes mes péchés, cachais ma faute dans mon sein. Ai-je eu peur de la rumeur publique? Hypocrisie. Ai-je eu peur de la rumeur publique? Ai-je redouté le mépris des familles? Et me suis-je tenu quoi? N'osant franchir ma porte? C'est la transparence que nous appelons ça aujourd'hui. J'ai été ouvert, accueillant pour tous. Mais on ne sait jamais. Oh, qui fera donc que Dieu m'écoute? Voilà la lamentation finale. Oh, qui fera donc que Dieu m'écoute? J'ai dit mon dernier mot à Shaddai de me répondre. Le libelle qu'aura rédigé mon adversaire, le libelle, c'est-à-dire l'accusation, hein, accusation qu'aura rédigé mon adversaire, je veux le porter sur mon épaule, le cindre comme un diadème. Je suis prêt à porter le poids de ce dont on pourrait m'accuser. Donc, le libelle, l'accusation qu'aura rédigé mon adversaire, je veux le porter sur mon épaule, le cindre comme un diadème. C'est-à-dire, je prends vraiment mes responsabilités. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Et je m'avancerai vers lui comme un prince. Lui, c'est Dieu, bien entendu. Dieu est véritablement mon juge. Et voilà quelque chose de très important. Je peux être juge de ma vie, faire mon examen de conscience le mieux que je peux. Je ne suis pas sûr de ma culpabilité, mais je veux la porter devant Dieu. Me laisser vraiment juger par lui. Et ça, ça va très loin. Ça, c'est une confiance profonde. Je ne veux plus me juger moi-même. Mais c'est à lui que je remets ma cause. Vous retrouvez quelque chose de cela dans le chapitre 25e, fin du chapitre 25e de l'évangile de Matthieu. J'ai eu faim, vous m'avez. J'ai eu soif, etc. J'ai eu faim. Je me laisse juger par mon Dieu, que je crois bien n'avoir pas renié, puisque je lui parle encore, et je m'avance à lui comme un prince. Un prince, c'est un homme libre. C'est un homme qui se sait pécheur, qui sait bien qu'il n'est pas un homme parfait, mais qui a cru en Dieu. Mais puisqu'il a cru en Dieu, il se laisse juger par lui. Ça, c'est la véritable confiance. Ça, c'est la véritable foi. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Il peut regarder tous mes pas. C'est à lui que je peux rendre compte de tous mes pas. Ni à mes frères, ni à moi-même. Et je m'avancerai vers lui comme un prince. Fin des paroles de Job. On ne peut plus rien dire d'autre. Il a dit ce qu'il avait vécu, le bonheur que Dieu lui avait donné, qu'il avait essayé de vivre dans son passé. Actuellement, il n'a plus rien. Il est le dernier de tous, il n'est plus que poussière et cendre. Et maintenant, il a fait son examen de conscience un peu comme dans le style, en tout cas, hein, de ce que font les livres des morts en Égypte. Il n'a plus rien. Il est transparent, il est tout nu devant Dieu. C'est un geste de suprême confiance. C'est peut-être la manière dont la sagesse est en train de vivre en lui. Nous dirions aujourd'hui, c'est l'Esprit Saint qui l'apaise au sein même de ses questionnements. Je m'avancerai vers lui comme un prince. Faut-il ajouter quelque chose ? Eh bien oui, il y a un chapitre 32e et un 33e. Et de nouveau, ce sont des passages qui ont été ajoutés par après, parce que c'est un nouveau compère qui va venir trouver Job, un monsieur qui s'appelle Élihu. Mon Dieu, lui, touche pas mon Dieu, hein ? C'est bien ça que ça veut dire. C'est un peu comme Eliphaz. Mon Dieu, c'est d'or pur. Et qui va reprendre un peu les arguments de ses amis. Il va encore secouer davantage Job, au fond, dans cette transparence à laquelle il est arrivé jusqu'ici. Ça va rebondir. Et nous verrons la fois prochaine, justement, quel est le sens de cette arrivée d'un étranger, d'un quatrième, qui n'avait pas été annoncé du tout, qui intervient, qui est plutôt un juif, parce que ça s'appelait comme ça, hein. Mais enfin, Élihu, c'est comme Élie, hein. Mon Dieu, c'est Yahvé. Alors, les discours d'Élihu, il faudra encore les subir, et nous verrons un peu leur sens.